Radio Campus Lille, 6h. À Montbernanchon, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais, Géotopia est une maison de la nature créée par la communauté d'agglomération Béthune-Brouet-Artois-Lys-Romane. Son but, sensibiliser le public et notamment les enfants à la préservation de la nature. Cela se fait notamment par le biais d'ateliers, de temps forts durant les vacances scolaires. Juliette Rogerie, animatrice nature, nous en dit plus sur les différents événements pour ses vacances d'été et sur ce qu'il y a à découvrir à la maison de la nature à Montbernanchon.
Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à voir. Donc on propose différents ateliers. Donc déjà, on propose un programme différent à chaque saison avec des ateliers nature pour découvrir pas mal de thématiques différentes en fonction de la saison. Ensuite, sur le site, on a un jardin avec différentes parcelles thématiques où on peut venir visiter librement et gratuitement sur les horaires d'ouverture. On a des mares aussi où on peut observer en ce moment les petites grenouilles et toute la faune de la mare. Et on a aussi un cabinet des curiosités où on ramasse un petit peu toutes les choses qu'on trouve dans la nature et qu'on peut observer plus tard. Une ruche pédagogique et on propose aussi des soirées observation du ciel avec le club d'astronomie.
Alors nous, on va surtout évoquer ce qui va se passer pendant ces vacances d'été. On a par exemple un atelier sur le monde des coccinelles, dites-nous tout.
Oui, alors donc là, ça va être la bonne saison là pour observer toutes les petites bêtes dehors. Donc on va avoir pas mal d'insectes et notamment des coccinelles. Donc là, l'objectif, ça va être de découvrir les coccinelles du jardin. Donc c'est vrai que dans le jardin de Géotopia, on peut voir pas mal d'espèces différentes et on a la chance aussi d'observer la coccinelle, mais tout au long de son cycle de vie. Donc on peut trouver des œufs, on peut trouver ses larves et ensuite on voit même les transformations, les nymphes en train de se transformer en coccinelle adulte. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à découvrir, parce que ça se passe finalement dans tous les jardins autour de nous. C'est quelque chose d'assez commun mais qui n'est pas très connu.
Et puis on va aussi donc découvrir cette fameuse ruche pédagogique. Pourquoi elle est pédagogique ?
Alors c'est une ruche pédagogique puisque c'est un peu, enfin quand même bien différent d'une ruche standard. C'est une ruche où on va pouvoir ouvrir des petites trappes tout autour du corps de la ruche. Et il va y avoir une partie vitrée, donc finalement on va pouvoir voir l'intérieur de la ruche. On va pouvoir voir les abeilles domestiques en train de travailler, de récolter le nectar, de le stocker. Et donc, pour l'évacuation, l'endroit où elles vont repartir, ça va être sous forme de cheminée, finalement. Donc, les abeilles vont pouvoir repartir pour aller butiner tranquillement. Et elles partiront en hauteur. Elles ne seront pas à la hauteur des visiteurs. Donc, c'est quand même plus sécurisé qu'une ruche standard.
Et vous faites votre propre miel ?
Alors, on fait appel à un prestataire qui récolte le miel. Et ensuite, voilà, on a un petit stock de miel qu'on peut faire déguster pendant les animations.
Comme souvent pendant les vacances, vous proposez un rallye nature cet été.
Oui, tout à fait. Donc là, on va proposer un rallye nature. Donc ça sera l'occasion, une fois de plus, d'être dans le jardin. Parce qu'on essaye vraiment de... pour l'été, d'être un maximum à l'extérieur, de profiter du jardin. Et puis, on va pouvoir découvrir pas mal de thématiques différentes et puis découvrir la nature sous différents aspects, avec une approche assez ludique et à la fois scientifique. Donc, les enfants vont pouvoir aller dans le jardin, chercher à chaque étape pour chercher, récolter les réponses, et puis à chaque fois revenir auprès de l'animateur pour avoir des compléments d'informations. Et puis s'il y a des manipulations ou des observations à faire, par exemple avec la loupe binoculaire, pour comprendre davantage.
Et puis parmi les autres idées sorties pour ces vacances d'été, il y a les mystères des épinoches disparues. Déjà, c'est quoi des épinoches ?
Alors l'épinoche, c'est un petit poisson qu'on trouve ici dans la zone humide. Donc c'est un petit poisson qui va avoir 2 à 3 petites épines sur le dos. Donc c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et donc l'objectif, ça va être de partir en balade dans la zone humide juste à côté de Géotopia. Donc ça va faire une petite marche. Et puis le but, ça va être de mener l'enquête pour trouver où sont passées ces épinoches et de relever un petit peu le mystère et de comprendre... qui a bien pu les faire disparaître.
On ne va pas en dire plus, si j'ai bien compris, il faut un peu de mystère.
C'est ça.
Parmi les temps forts pour cet été, vous avez aussi l'observation des papillons de jour. Ça se fait avec le département du Pas-de-Calais.
C'est ça. Donc, dans le cadre de la saison des pollinisateurs, on va proposer des animations. On va parler du papillon de jour. Donc, il va y avoir pas mal de papillons à observer dans le jardin. Encore une fois, on a des belles prairies fleuries. Donc, on a de quoi faire pour les papillons. Donc, l'objectif, ça va être d'apprendre à reconnaître les papillons communs, de comprendre leur cycle de vie. Donc, pareil, si on a la chance de trouver des chenilles, là, notamment, c'est vrai qu'en ce moment, on voit des chenilles de pan du jour, par exemple. Et donc, ces chenilles-là, elles vont venir et elles seront sur les orties. Donc, d'où l'importance de garder un peu d'ortie dans son jardin, même si c'est pas une plante qu'on adore habituellement. C'est toujours utile pour la nature.
Et puis, pour terminer, au mois d'août, il y a la nuit de la chauve-souris. Donc, là, le but, c'est je suppose, de réaliser des sorties pour les observer et puis peut-être un petit peu s'enlever certains clichés de la tête parce qu'on en a souvent peur des chauves-souris.
Ben, c'est ça. Donc, l'objectif, on va pouvoir partir en balade. Donc, ça sera des sorties plutôt nocturnes. Et puis, voilà, comme vous l'avez dit, faut un petit peu casser ces idées reçues. Puisque finalement, les chauves-souris, elles sont très, très importantes dans la nature. Elles vont quand même nous débarrasser de pas mal de moustiques et autres insectes volants qui nous embêtent pas mal l'été. Et elles vont vraiment pas du tout avoir d'impact négatif sur les humains quelconque.
Toutes ces idées sorties qu'on a évoquées sont pour les enfants à partir de quel âge la plupart du temps? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il faut réserver?
Alors, donc, les ateliers sont proposés à destination des enfants, donc à partir de 6 ans et accompagnés d'un adulte. Donc, elles durent environ 1h30 et donc c'est sur inscription. Donc, soit par mail ou soit par téléphone. On peut retrouver le programme soit sur notre compte Facebook ou soit sur le site internet de la Cabalère.
Donc, la communauté de communes, oui.
Voilà. Et en termes de tarifs, on sera à 3 euros par personne. Et à partir de 4 personnes, on passe sur un tarif famille qui est plus avantageux, donc à 10 euros. Et puis au-delà de 4 personnes, on reste à un tarif famille de 10 euros.
Et puis on le rappelle, tout le long de l'année, on peut donc découvrir la Maison de la Nature qui est ouverte quasiment toute l'année.
Voilà, donc nous, on est ouvert de février à novembre. Donc le jardin est ouvert et puis vous pouvez venir visiter gratuitement, avoir accès aux différentes parcelles, venir observer, voir la ruche, le cabinet des curiosités, les petites mares. Et donc il y a juste une période où on sera fermé entre décembre et janvier pour organiser toute la programmation et les activités à venir pour l'année, pour mieux se préparer.
Pour en savoir plus sur les ateliers, les idées sorties, les temps forts proposés par la Maison de la Nature, Géotopia, à Mont-Bernanchon, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais, rendez-vous directement sur la page Facebook Géotopia. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Mais si, écoutez Radio Campus sur le 106,6 MHz. Mais si, c'est aussi sur la toile, www.campusil.com. Mais si, c'est Radio Campus, Radio Campus.
Je me tenais bien droit et les jambes croisées. Le barrette est pour moi signe de fin de journée. Je suis crevé. Je travaille dans le social, dans la réinsertion. Mais je garde le moral car c'est ma vocation. Je vois beaucoup de gens victimes de l'exclusion. Cela m'est dur mais pourtant je dois faire abstraction. Je ne suis pas un con. Quand je sors du turbin, ça refoule la misère. J'en vois tout le long du chemin, mais que puis-je y faire? Je voudrais bien m'arrêter, ne pas baisser les yeux. Ils y sont habitués, les passants ne font pas mieux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Toujours bien adossé, genoux contre le comptoir, j'aperçois à l'entrée une jeune fille en noir. Elle vient me voir, ses yeux brillaient encore. Elle venait de pleurer toutes les larmes de son corps. Puis elle m'a expliqué, ses parents ne le savaient pas, mais elle avait échoué pour la troisième fois au concours des Luxpé. Elle avait fugué, ça leur coûtait un bras. Elle n'osait plus rentrer, ça faisait plus d'un mois qu'elle dormait sur le pavé. Mon métier prit le pas sur ma vie privée. Ces heures ne comptaient pas, mais je ne suis pas un planqué. Je l'ai consolé et je lui dis rentre chez toi. T'as rien à foutre dans ce bar, allez rentre chez toi. Il n'est jamais trop tard. J'étais bien vautré, les jambes écartées, la chemise bien froissée, mais le boulot était terminé. J'étais touché, un type à côté de moi dégageait comme une rage, parlait je ne sais quoi, dans je ne sais quel langage. J'ai compris comme j'ai pu qu'il était en danger, une famille à la rue et rien à manger. J'étais touché, on lui avait vendu mensonges et illusions, sa famille l'avait cru dans cette soute d'avion. Une espèce d'abruti se permit tout haut d'avoir des propos pourris aux odeurs de fachos. Et sans mâcher ses mots, il lui dit rentre chez toi, t'as rien à foutre dans ce bar. Allez rentre chez toi, on charter demain soir. Comme si dans la journée, j'ai pas eu ma dose. Un type est entré pour nous vendre des roses. Le patron l'a jeté, il a juste eu le temps de m'offrir une fleur, tout en restant souriant, pour trouver son bon cœur. Mais moi quand je vois tout ça, ça me déprime, ça m'agace. J'ai honte de vous, de moi et de ces gens qui passent. Je me sens impuissant, j'en veux à toute la terre. Je vais passer le temps dans le boulot, dans la bière. J'embrasse la misère un peu plus tous les jours. Je côtoie la galère et je lui fais l'amour. Hiver comme été, c'est plein de temps toute l'année. Moi j'ai fini par le payer, mais ma femme s'est tirée. Avachie sur le bar, écoute bien écarté, j'avais grand peine à boire, je faisais peine à regarder. J'étais cramé, je renverse mon demi, je dis que ça fait chier, que le monde est pourri, que je ne veux pas rentrer, que je ne veux pas rentrer, 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 je ne veux pas rentrer. Et je rentre chez moi, tout seul comme un connard. Je rentre chez moi, viré par le patron de bar. Et je rentre chez moi, j'ai vu mon désespoir. Et je rentre chez moi. Personne ne m'attend ce soir. Thank you.
see you shining inside. In the grace of your love, no one can ever die. In the grace of your love, every day when I wake up. In the grace of your love, in the grace of your love.
La Bassure en fête, événement dédié à la nature et à l'environnement à Achicourt. Cette année, le thème, c'était « De la terre à l'assiette ». Un reportage réalisé sur place. On entendra notamment des interviews d'intervenants qui présentent leur stand, entre autres l'ADAV, l'Association du droit au vélo, une conteuse pour petits et grands, Marion Cailleret, Anne-Ophélie Louis, qui proposait un stand balade et écriture sur la nature, et tout cela agrémenté par une illustration sonore de l'harmonie d'Achicourt. Ah, c'est pour la photo.
Moi, je représente l'ADAV ici sur Achicourt. En fait, l'ADAV, c'est la grosse association régionale avec, je pense qu'on est à 3000 adhérents. Et donc, il y a différentes antennes. Il y a une antenne à Arras et puis il y a une antenne aussi à Achicourt. Donc, moi, je suis correspondant local sur Achicourt. Et donc là, on a un stand et on a co-animé une balade vélo. On a eu une trentaine de personnes. Avec deux parcours, un parcours de 10 km et un parcours plus réduit. Et en accompagnant, on était 8 personnes, donc ce qui était sympathique.
Sur votre stand, il y a plein de choses. Hein. D'abord, j'ai vu le panneau là, la sécurité pour les enfants. Comment faire pour que les enfants ne se plantent pas ? Message aux parents, il est important que vous accompagniez vos enfants à vélo à leur début pour leur apprendre les bons comportements sur la route.
Il y a plusieurs biais. Alors nous, on fait de l'information dans différentes actions sur Arras et sur la communauté urbaine avec des panneaux pédagogiques qui sont, je pense, relativement bien faits. Après, il y a aussi les actions des communes. Je sais que sur Achicourt, le service sport de la commune se met en lien avec les écoles. Ils font beaucoup d'animations sur le thème de la sécurité vélo. En particulier à Achicourt, on a ce qu'on appelle un petit parcours vélo sur Macadam avec plein de panneaux qui est du côté du pont Gondry. Il y en a deux autres, je crois, sur la communauté urbaine. Et ça aussi, c'est vraiment efficace pour apprendre les bons comportements aux enfants.
Est-ce que vous avez eu du monde justement qui est passé devant votre stand et qu'est-ce qu'ils vous demandent ? C'est quoi les questions qu'ils vous posent, etc.
Les gens sont intéressés, déjà les pratiquants du vélo, hein, de tout âge. Après, les gens sont intéressés aussi par les ateliers vélo de la DAV. Il y en a deux sur la communauté urbaine, un à Léon-Blum, à Arras, et un à Saint-Laurent-Blangy. Donc les gens sont intéressés soit parce qu'éventuellement c'est des réparations, des petites réparations où il leur manque des pièces, ou alors pour des dons, parce qu'ils peuvent aussi donner les vélos, et puis après ils sont restaurés par l'atelier, et puis après revendus au profit de l'association, ou donnés. Par exemple, aujourd'hui, on avait à la vente proposé 8 vélos, des vélos enfants. Ceux qui ne seront pas vendus, eh bien, par accord, ils seront donnés par l'association à la commune d'Achicourt, éventuellement pour les écoles, pour des enfants qui n'auraient pas de vélo, pour certaines activités communes.
Alors, je vois qu'il y a une affiche aussi éclaireur. Les éclaireurs du Tour 2025, vous pouvez m'expliquer un petit peu ?
Alors ça, c'est passionnant. L'ADAV, en fait, a été contactée par l'EHPAD d'Achicourt, parce que l'EHPAD d'Achicourt, en association avec d'autres EHPAD du Pas-de-Calais, vont faire des actions liées au vélo. Ça semble surprenant, parce que EHPAD vélo, ça semble pas compatible, mais oui. Donc, en fait, ça va être des actions qui, surtout sur le mois de juin, mais ça va durer jusqu'à octobre, je crois. Donc, il y aura quoi ? En particulier, ça va pédaler. Dans les EHPAD, ça va pédaler. Donc, il y a à la fois certains résidents EHPAD d'Achicourt qui sont encore en capacité, qui vont pédaler. Et les kilomètres, pédaler sur des vélos d'appartements, enfin des vélos, voilà. Et les kilomètres vont être comptabilisés. Et puis, comment dire, les familles pourront aussi participer pour faire monter le compteur. Et même des habitants, nous, on va essayer de s'y associer, y aller pour essayer de faire monter le compteur. Et donc, ce sont les référents sportifs dans les EHPAD qui vont faire différentes actions. Il y a également une sortie prévue. Alors, ça semble étonnant, mais oui. L'EHPAD d'Achicourt va louer quelques vélos adaptés, deux ou trois vélos adaptés. Et il y aura le projet, ça serait qu'il y ait une sortie avec, comment dire, avec des résidents capables qui doivent le faire, accompagnés par des personnes valides, entre guillemets. Et il y aura peut-être une sortie en juin, voilà, dans ce cadre-là, en partenariat en plus avec, avec des jeunes enfants. Donc, voilà, en tout cas, il y a des projets intéressants, avec quelques actions qui se prolongeront après le reste de l'année.
Bon, c'est une gueule, histoire du solo, parce que je suis toute seule. Je suis en faire qu'une, mais j'essaie de la faire plus vite. Prêt ?
Allez, plus vite.
Plus vite ? Prêt ? Allez, vous êtes marrants, c'est pas vous qui jouez, hein. Bah non, hein, je sais pas aller plus vite. Lavez sa chemise, portez-le. Eh ben, c'est fini. Merci beaucoup. N'oubliez pas que pour bien faire pousser les choses, il faut du soleil, il faut de la pluie, il faut de l'amour, plein.
Vous proposez un concert, hein, c'est ça, pour les enfants. Il y en avait plein, là, il y a 5 minutes.
C'est un spectacle de petites histoires et de comptines pour les tout-petits et leurs familles. Alors, je suis Marion Cailleret, je suis conteuse depuis presque 30 ans maintenant. Et je raconte beaucoup pour les tout-petits. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un public mixte parce qu'il y a à la fois les bébés et il y a les parents. Donc, j'essaye d'avoir un truc à double sens, en fait, pour que les parents ne s'ennuient pas.
Alors, donc, il y a des contes et de la musique.
Tout à fait. Il y a donc des petites histoires qui sont des histoires, certaines sont traditionnelles, d'autres sont les miennes. Et il y a un peu de harpe et un peu d'accordéon.
Et je vois qu'il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes que vous avez créées vous-même ou...
Oui, tout à fait. J'aime bien travailler avec des petits décors parce que ça m'amuse et que ça, je trouve que ça amène des choses au récit, ça amène une illustration en fait que je trouve intéressante. J'aime bien la manipulation aussi, ça m'amuse beaucoup.
Alors moi, c'est Ophélie, le punch et la plume. Je propose un nature-écriture donc dans une nature donnée qu'on va choisir en groupe avec un démarrage à la fête de la Bassure. Un court moment, c'est une heure, où je fais écrire ou pas, c'est une option, dans la nature, au cœur de la nature, avec la nature, pour la nature, parce que l'écriture et la nature, ce sont deux sources qui peuvent se compléter pour booster notre créativité, nous oxygéner et nous faire voir les choses autrement.
Donc, voilà. J'imagine que tu as eu du public.
Ça va arriver.
Est-ce que c'est plutôt des enfants? Est-ce que c'est plutôt des adultes ou...
Eh bien, c'est tout public, même si on ne sait pas écrire, comme dit Cocteau. L'écriture, c'est du dessin noué. Si on a envie, on s'exprime comme on peut. C'est un langage, donc on se fait aider. Donc, si on a 3 ans... par sa mère, où on influence sa mère sur une idée, parce que les enfants sont très réceptifs finalement. Donc voilà, l'animateur de savoir réguler tout ça. Je suis plutôt dans cet esprit ouvert.
C'était un reportage réalisé lors de la Bassure en fête d'Achicourt sur le thème de la terre à l'assiette et qui s'est déroulé le 29 mai. Ce sujet a été réalisé par Boris Guyot de Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Salut, c'est les Chasse-Patates sur Radio Campus.
On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillé, letaillerproduction.com et sur ticketmaster.fr.
ZEP, zone d'expression populaire, featuring
Buster Robert,
MC Jean-Pierre,
2010.
C'est du lourd, gros.
Il avance, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Il avance, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Par voie ministérielle, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés. Carte blanche pour les gros bofs qui ont la haine de l'étranger.
Petit bourgeois, démocrate républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels. Un mythe, un mirage, un mensonge officiel.
Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir.
Et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Il avance, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles. Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leur symbole écœurant, affligeant. L'évolution en 60 ans, regarde à l'Assemblée, il y a des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon.
Quand t'adhères à leur projet, quand tu cautionnes leur saloperie, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes, ils adorent le couscous et chèvre à l'aide, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohamed.
Fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colon.
Le racisme est dans nos murs et dans nos livres scolaires, dans nos souvenirs, dans notre histoire, dont nous sommes si fiers, omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans nos mémoires et impossible de s'en défaire.
Il avance, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Il avance, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'il était antiraciste, tu as promis l'égalité.
Tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure, mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs, manipulateur. Tu cours après l'électeur, on t'a démasqué de toi et ton parti d'usurpateur.
Et il y a nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques, comme la connasse de Forest. Ils propagent, alimentent la haine du musulman, du banlieusard, avec leurs discours stigmatisants.
Leurs discours arrogants, insultants et méprisants, omniprésents, leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur.
Mais on va pas se laisser faire, se laisser baïonner, on va pas lâcher l'affaire comme Élie du LKP.
C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance.
Il avance, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Il avance, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Il avance, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Il avance, et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Il avance, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
L'endométriose est une maladie qui touche 2 millions de personnes en France. Elle est invalidante, douloureuse et constitue la première cause d'infertilité féminine. Elle touche entre 10 et 15% des femmes en âge de procréer. Sensibiliser et soutenir les patientes atteintes d'endométriose et leurs proches, c'est le principal objectif de l'association EndoAction. Myriam, présidente de l'association EndoAction de Villeneuve-d'Ascq.
L'association EndoAction est une association de patientes atteintes d'endométriose qui a été créée en 2018 et dont le siège se situe à Villeneuve-d'Ascq. Alors, l'endométriose, c'est une maladie. C'est une maladie gynécologique, chronique, complexe et à ce jour encore incurable qui touche environ 1 à 2 personnes sur 10 menstruées. Donc c'est une maladie dont on parle depuis quelques années maintenant et malheureusement la maladie n'est pas encore reconnue comme elle devrait l'être. Une fois qu'on est diagnostiqué atteint d'endométriose, on sait que c'est un lourd parcours qui nous attend. Et donc le but de l'association, c'est vraiment la sensibilisation, l'information et le soutien de toutes les personnes atteintes d'endométriose et de leurs proches.
Est-ce que vous pouvez nous parler des actions que vous mettez en place ?
Alors, nous mettons en place des actions de sensibilisation, notamment grâce aux réseaux sociaux, où nous avons un groupe de parole sur Facebook, un groupe privé, qui permet donc aux personnes de venir partager leur parcours, de venir aussi s'informer, que ce soit les personnes atteintes, mais aussi leurs proches. C'est un groupe qui est réservé aux femmes parce que c'est vrai que nous parlons parfois aussi de sujets tabous, notamment liés à la sexualité. Donc voilà, sur le groupe aujourd'hui, il y a environ 4800 membres. Donc c'est un groupe francophone. Il y a aussi bien des Françaises que des Antillaises, des Canadiennes, des personnes d'Afrique du Nord. Enfin voilà, c'est vraiment un groupe francophone ouvert à tous, gratuit et accessible. Et c'est vrai que nous orientons également les personnes qui sont en demande vers nos partenaires et vers des professionnels de santé qui sont reconnus, puisqu'aujourd'hui, il existe des gynécologues qui se sont spécialisés dans l'endométriose.
Comment est-ce que les personnes peuvent participer à ces groupes de parole ?
Alors, le groupe de parole sur Facebook, il suffit de le rejoindre en répondant à quelques questions. Donc, le groupe s'appelle Endométriose Info Conseils et Soutien. Donc c'est un groupe qui est gratuit, hein, vous le trouvez donc sur Facebook.
Donc une fois que c'est validé, ensuite après la personne peut avoir accès aux discussions, au fil de discussion.
Exactement, chacun peut partager, après on n'est pas obligé d'écrire aussi, on peut lire les posts de toutes les membres. Donc il y a uniquement les membres du groupe qui pourront lire, hein. Pas les amis, pas nos amis directs sur Facebook. Et chacun après est libre de partager son parcours, de poser des questions, et en plus ils verront aussi les actions que nous menons toute l'année, puisqu'on crée des événements, on crée des posts spéciaux pour annoncer d'ailleurs prochainement le mois de mars, qui pour nous est un mois riche en actions.
Est-ce que grâce à ce groupe, il y a des personnes qui se sont rapprochées de l'association ?
Bien sûr, en fait, c'est vrai qu'on est très actifs sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, TikTok également, on a le site internet, Twitter, enfin X maintenant. Et c'est vrai que notamment pendant le confinement où nos actions étaient très limitées, c'est grâce aux réseaux sociaux que les personnes nous ont découvert. Et on rejoint le groupe et donc du coup s'informe. Il y a aussi beaucoup de soutien parce qu'il faut savoir que quand on est en souffrance physique et qu'on n'est pas forcément soutenu ou compris par l'entourage, ça permet aussi aux membres de pouvoir écrire ce qu'elles ressentent sans jugement, avec beaucoup d'empathie, et c'est très important.
Donc suite à ça, il peut y avoir des premières rencontres.
Bien sûr, il y a déjà la rencontre virtuelle et c'est vrai que pour celles qui sont dans le Nord ou proches de nos bénévoles, ça permet aussi de pouvoir se rencontrer physiquement lors des actions. Et d'ailleurs, je vous invite à participer aux prochaines actions.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de personnes que vous avez accompagnées ?
Alors, déjà, certaines bénévoles qui nous ont rejoints grâce au groupe de parole. Moi-même, à l'époque, avant de créer l'association, j'étais bénévole. J'ai rencontré, du coup, des personnes atteintes d'endométriose et ça m'a donné envie de m'investir parce que, je me disais à l'époque, donc ça fait une dizaine d'années maintenant, on ne parlait pas du tout d'endométriose. C'était un sujet tabou. Et donc, je me disais, mais pourquoi une maladie qui est pourtant assez courante, hein, puisqu'elle touche 1 à 2 personnes sur 10, pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi il y a ce tabou ?
C'est sûr qu'en ayant eu cette maladie, c'est beaucoup plus facile après pour essayer de sensibiliser les personnes et d'en parler aussi au corps médical, parce qu'il doit y avoir aussi toute une recherche autour de ces symptômes.
Oui, et la recherche, elle est en cours. On ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi certaines personnes ont de l'endométriose, quelles sont les origines de cette maladie. Donc, il y a certainement un facteur génétique, puisqu'on se rend compte dans certaines familles que c'est soit de mère en fille ou alors une cousine, une tante, voilà. Donc, il y a certainement un facteur génétique. Et après, on parle des perturbateurs endocriniens. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, on ne sait pas les origines de cette maladie. La recherche, elle est en cours, mais forcément, ça a un coût financier. Et bon, ben voilà, on ne sait pas demain non plus qu'on va trouver un traitement, même si on aimerait bien, pour guérir l'endométriose.
Dans le parcours, la première étape, c'est l'étape principale, c'est de se faire diagnostiquer.
Oui, la première difficulté, parce que les symptômes de l'endométriose, ce sont, enfin, l'un des premiers symptômes, c'est la douleur menstruelle. Donc, on a eu tendance à banaliser cette douleur, donc à dire aux femmes qui se plaignent quand elles ont mal pendant leurs règles que c'est normal. Sauf que non, c'est pas normal d'avoir mal. C'est normal d'avoir ses règles, mais c'est pas normal de souffrir, d'être pliée en deux, de vomir, parfois même de faire des malaises, de ne pas pouvoir se lever. Ça, c'est pas normal. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, il faut en parler à votre médecin, à votre gynécologue, à une sage-femme, enfin à un professionnel de santé. Il ne faut pas rester avec des douleurs et minimiser surtout cette douleur, puisque ça peut être justement à cause de cette maladie, l'endométriose. Donc, comment se faire diagnostiquer ? Ben, grâce à une échographie, à un IRM, rien qu'aussi en répondant à un questionnaire type, on peut se faire diagnostiquer. Et du coup, une fois qu'on a ce diagnostic, on a une prise en charge personnalisée, puisque l'endométriose est une maladie complexe. Chaque cas est différent. Il y a l'endométriose qui peut se déposer uniquement sur l'appareil gynécologique, et il y a l'endométriose qui peut malheureusement toucher d'autres organes.
Donc c'est vraiment, comme vous le disiez, c'est vraiment complexe.
C'est complexe, parce que même les traitements aujourd'hui, les traitements hormonaux, qui nous permettent de mettre notre cycle en repos, hein, donc de ne plus avoir de règles. Même les traitements n'agissent pas pareil d'une personne à une autre. Donc que ce soit une pilule en continu, que ce soit un implant, que ce soit un stérilet, ben, il faut parfois essayer même plusieurs traitements avant de trouver celui qui nous corresponde. Et en plus de ça, ça reste des hormones avec du coup les effets secondaires, malheureusement, qui les accompagnent.
Jocelyne, adhérente de l'association EndoAction de Villeneuve-d'Ascq.
Oui, je vais ajouter un mot sur ce sujet. Effectivement, dans les différents traitements, il y a de la pilule en continu, des pilules en continu, des pilules progestatives ou œstroprogestatives. Il y a également la ménopause artificielle. Et non seulement chaque femme peut réagir différemment aux différents traitements, mais parfois une même femme, ça a été mon cas, va réagir différemment. Par exemple, dans mon cas, c'était pour une ménopause artificielle. J'ai eu 3 injections qui sont passées toutes les 3 de façon différente, et la 4e, j'ai eu des effets secondaires terribles avec des vertiges, des crises d'angoisse permanentes. Et on ne pense pas que des hormones vont avoir ce type d'effet secondaire. On ne pense pas que des hormones vont donner des effets du type dépression ou crise d'anxiété ou palpitations cardiaques, etc. Mais c'est vrai que les hormones, et notamment les hormones de synthèse, ça a des effets qui sont difficiles à maîtriser, difficiles à prévoir. Et pour chaque femme, et même pour une même femme, entre deux périodes de traitement.
Et est-ce qu'on vous a averti de ces effets ?
Alors, non seulement on ne m'a pas averti, mais en plus, quand je suis allée voir mon médecin en lui disant qu'il y avait vraiment un problème, il est allé sur Internet pour voir quels étaient les effets secondaires qui étaient possibles en lien avec ce traitement. Donc, on se sent un peu démunis dans ces cas-là.
Il y a une méconnaissance, malheureusement, de cette maladie. Hein. Il faut savoir qu'il y a plusieurs générations de médecins qui n'ont pas été formés et donc qui sont passés forcément à côté des symptômes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle. Aujourd'hui, on forme les médecins, les gynécologues. Mais c'est compliqué. Ça reste compliqué parce qu'il n'y a pas assez de spécialistes. Comme je disais, la prise en charge doit être pluridisciplinaire parce que l'endométriose ne touche pas que l'appareil gynécologique. Il peut toucher d'autres organes. Et quand la maladie est malheureusement très avancée, parfois la chirurgie est nécessaire.
C'est-à-dire opération ?
C'est-à-dire une opération, donc pour retirer du coup, alors je vais expliquer avec mes mots, des simples mots, l'endométriose c'est, comment je vais dire ça, comme des kystes, hein, même si c'est pas le terme, c'est des nodules, qui vont donc se développer, malheureusement se développer sur l'appareil gynécologique et se propager. Alors en fait avec le cycle, tous les mois, ces kystes vont saigner, et c'est ça qui va provoquer les douleurs. Donc, forcément, on va avoir mal en bas du ventre. On peut avoir mal aussi au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Donc, ça dépend où vont se localiser ces nodules. Quand il y a opération, le but, c'est de retirer ces nodules. Et donc, ça passe par une chirurgie. Et malheureusement, une chirurgie, ça a toujours des conséquences aussi. Donc, c'est vrai que moi, je suis d'une génération où, à l'époque, on opérait beaucoup. Aujourd'hui, on commence à se calmer au niveau des opérations parce que malheureusement, qui dit opération ne veut pas dire guérison. Et il y a toujours un risque de récidive également. Donc aujourd'hui, on opère vraiment quand on n'a pas d'autre choix, tout en sachant que les opérations, ça a des conséquences. Et aussi, je rappelle qu'il faut se faire prendre en charge par un gynécologue spécialiste. Tout le monde n'est pas spécialiste. Donc c'est vraiment important de se faire suivre et de se faire opérer quand on le doit par un gynécologue spécialisé. Même si parfois on doit attendre plusieurs mois, même si on doit faire des kilomètres, parce que les spécialistes sont en général dans les grandes villes, c'est préférable d'attendre et de se faire opérer par un spécialiste que de passer à côté, de se faire d'être suivi par un gynécologue qui n'est pas spécialisé.
Oui, allez-y.
Je voulais compléter parce que tu parlais effectivement de pôle pluridisciplinaire dans ce type de cas, et tu disais que ça pouvait, que les nodules pouvaient aller sur d'autres organes, et on entend assez souvent des nodules qui vont se déposer sur la vessie, sur les intestins, sur le rectum. Et c'est vrai qu'on ne pense pas non plus, quand on parle de maladies gynécologiques, on ne pense pas que d'autres organes de ce type vont être touchés. Et donc, on peut se retrouver avec une occlusion intestinale, par exemple, et on ne pense pas forcément à faire le lien avec une maladie comme l'endométriose. Et là, ça peut aller donc très loin. Et les personnes qui se font opérer, qui vont être touchées au niveau des intestins ou de la vessie, là, ce sont des opérations qui sont assez lourdes.
Exactement. Et c'est vrai que dans mon cas, j'ai été diagnostiquée après une occlusion intestinale. Et on va dire que c'est grâce à l'occlusion intestinale qu'on a diagnostiqué l'endométriose parce que j'avais une atteinte au niveau de l'intestin. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur la page Facebook de EndoAction et aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, sur le site internet.
Nous étions avec Myriam et Jocelyne de l'association EndoAction de Villeneuve-d'Ascq. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
À Villeneuve-d'Ascq sur 106,6, à Tunis sur campuslille.com. Campus, partout avec vous.
En septembre cette année, loin des rives du lac du Ridera, laissera dériver, j'espère au moins jusqu'en automne. Toi tu crois qu'avant la fin de l'été, nous ne serons plus rien ni personne. Le soleil et la mer, étoiles légères comme l'air, passent les jours heureux là où le ciel est bleu. Le soleil et la mer, ce n'est pas ce que tu préfères. Passe les jours heureux là où le ciel est bleu.
Se perdra-t-on dans la lagune, youpi hoplala, etc. Avant les premières amertumes, sur notre radeau de fortune, des portées solitaires et fières, on ira sûrement en enfer.
Le soleil et la mer, c'est bon hiver, passe les jours heureux.
soleil et la mer, ce n'est pas ce que tu préfères. Passe les jours heureux là où le ciel est bleu. Toi, ta-di-do-di-do-dam, ta-di-do-di-do-dam, ta-di-dam-di-dum-tam-tam. Aussi, ça te fait peur, mais c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. On n'a pas voulu, on n'a pas choisi. Tu n'as rien vu, je n'ai rien dit. Quand on a touché, t'avais les yeux fermés. Le soleil et la mer, étoile légère comme l'air, passent les jours heureux là où le ciel. Le soleil et la mer, ce n'est pas ce que tu préfères. Passe les jours heureux là où le ciel est bleu. Toi, t'as dit de dit doudam, t'as dit de dit doudam, t'as dit tam dit doudam tam tam. Toi, t'as dit de dit doudam, t'as dit de dit doudam. Le soleil et la mer. Le soleil et la mer.
To dry, no more air, summertime.
Loving you, loving you, loving you.